Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Joe Biden prendra ses fonctions de président des États-Unis dans 10 jours. Aura-t-il les coudées franches pour appliquer son programme? Et qu'en est-il de Donald Trump? Peut-il encore nuire d'ici là? Jean-Éric Brana est en direct avec nous ce matin. Il est le premier en France à avoir dit que Biden serait candidat, qu'il remporterait la primaire démocrate et même qu'il battrait Trump. Je recevrai ensuite l'astrophysicienne Sylvia Ekström. 3 missions ont été lancées sur Mars cet été, dont une de la NASA qui devrait arriver sur la planète rouge dans 1 mois et demi. On rêve d'envoyer bientôt un premier équipage. Elon Musk parle même de coloniser Mars, mais se garde bien de nous dire ce que serait vraiment pour les humains un voyage de plusieurs centaines de millions de kilomètres et ce que cela impliquerait en termes de promiscuité, de santé, d'hygiène, de problèmes psychologiques et de garde-robe. Sylvia Ekström va nous le raconter et ça va en refroidir plus d'un. Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres sur la politique américaine. Le dernier est une biographie de Joe Biden qui vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. Vous enseignez à l'université d'Assas. Vous avez même été lauréat d'une bourse Fulbright. Et vous avez vécu dans la vallée où est né et où a grandi le nouveau président des États-Unis. Vous aviez prévu qu'il deviendrait président. Qu'est-ce qui vous rendait si confiant? On ne peut pas dire qu'il soit irrésistible, Joe Biden.
Ah ben ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos, parce que c'est un jugement d'un petit peu de valeur, mais en réalité, ce qui était l'analyse qui sous-tendait tout cela, c'était l'expérience Donald Trump, qui avait réussi à montrer qu'il y avait une autre voie possible pour arriver à la présidence, et ça a donné des ailes, ça a donné en tout cas des ailes à mon sens, à beaucoup de gens qui pouvaient être un peu ambitieux dans le Parti démocrate. Donc j'avais fait un double pari. Le premier, c'est qu'il y aurait énormément de candidats au Parti démocrate, ce qui était le cas puisqu'il y en a eu 27. Et s'il y avait autant de candidats, le trop-plein faisant que ça faisait un petit peu boucher les canaux, seuls ceux qui avaient une très grande notoriété pouvaient émerger et il n'était que 3 dans ce cas-là. C'est Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Joe Biden. Joe Biden étant le seul modéré, c'était le seul qui ne ferait pas peur aux électeurs démocrates et donc il semblait évident qu'il l'emporterait à la fin.
On se doutait que Donald Trump ne reconnaîtrait pas sa défaite. Il n'a jamais reconnu aucun échec dans aucun domaine. Il en a pourtant connu de nombreux, notamment dans ses affaires. Mais comment expliquer pareil entêtement jusqu'à provoquer l'invasion du Capitole par ses supporters les plus fanatiques ?
Très sincèrement, je ne l'explique pas. Alors moi, j'ai pas un doctorat en psychiatrie, donc je peux pas m'engager sur ce terrain-là. Je me contente de mon doctorat en civilisation américaine et on essaie de regarder quand même sur le plan politique. C'est vrai que Donald Trump avait appuyé sa campagne de 2015-2016 sur le côté viriliste. Il répétait tout le temps que tous ses adversaires étaient des losers. C'est un mot qui était devenu très populaire à ce moment-là. Ça avait commencé le 6 août 2015, au moment du premier grand débat entre républicains. Il se trouvait au centre de la scène et il avait ouvert grand les bras en les montrant tous en disant « ce sont vraiment tous des losers, ils sont tous venus frapper à ma porte pour réclamer de l'argent pour leur campagne. Moi, jamais un seul d'entre eux ne m'a donné $1 et c'est pour ça que je vais les battre. » Et il a passé ensuite sa campagne à les démonter, on va dire, un par un avec des phrases qui sont restées cultes parce qu'elles étaient quand même très odieuses par moments. Cette campagne-là a assis Donald Trump et a séduit énormément de ceux qui sont ses fans aujourd'hui, qui ont quand même le culte du héros, ces héros qu'on voit dans les séries hollywoodiennes, qui sont quelquefois sans foi ni loi, mais qui gagnent à la fin. Et ils ont fait une transposition avec Donald Trump. Aujourd'hui, il ne peut pas reculer. Il faut qu'il tienne ce rôle du héros jusqu'au bout.
On dirait qu'il n'anticipe pas. C'est pour ça qu'il ment effrontément, à mon avis. Il est incapable de se projeter dans l'avenir, d'imaginer les conséquences de ses paroles ou de ses actes. C'est une limite terrible quand même sur le plan intellectuel.
Alors là encore, je vais remettre ma propre limite qui est qu'en psychiatrie, je suis totalement incompétent. Mais en revanche, je crois que pour l'anticipation, on peut là aussi opposer sur le plan politique ou de l'observation que ce qui nous est arrivé là dans cette campagne était venu de très loin. Puisque dès le mois de mars, Donald Trump nous a parlé des votes par correspondance qui lui posaient problème, qu'il jugeait illégaux. Et on a compris en réalité qu'au moment du vote, que c'est à partir de cela qui avait donc commencé en mars, qu'il comptait aller jusqu'au 6 janvier pour faire renverser le vote au Congrès dans l'espoir qu'on déclencherait cette procédure qui veut que le Congrès peut choisir le président sur la base d'une voix par État et qu'à ce moment-là, il serait élu. C'était très tordu, il fallait quand même penser à cette chose-là.
Est-ce qu'il peut encore nuire d'ici le 20 janvier ?
Eh bien, tout le monde en a peur. En réalité, on a beau dire c'est terminé, on n'a jamais eu un décompte de cette transition qui a été aussi long. On en est à 10 jours, vous l'avez rappelé. Moi, tous les jours sur mon compte Twitter, je mets le décompte. Je dois vous dire que les journées sont très longues et qu'il se passe quand même énormément de choses. Je crois que je n'ai jamais été aussi occupé de ma vie qu'en ce moment. Ça fait très peur. On entend parler en ce moment d'un appel pour une manifestation armée pour dimanche prochain à Washington, peut-être même dans d'autres villes des États-Unis. L'inquiétude est quand même très grande et c'est vrai que tout le monde a peur de ce qui peut arriver. On a bien compris que l'allumette flambe en ce moment et qu'elle est au-dessus d'un baril de poudre qui peut exploser n'importe quand.
Au fond, Donald Trump n'est doué que pour une chose, prendre l'ascendant sur les autres. C'est la seule arme dont il dispose, alors il en abuse. Il en a encore beaucoup sur les Américains ?
Il en a sur une certaine partie des Américains, oui. On voit que certains lui vouent un véritable culte. Vous entendez en ce moment tous ces followers qui sont outrés de ce qui a pu lui arriver, notamment parce qu'il a été banni de Twitter. On voit par exemple que quelqu'un a créé un faux compte Twitter cette nuit en disant « c'est Donald Trump qui se cache derrière ». Instantanément, en moins de 24 heures en tout cas, il a eu 400 000 suiveurs, followers, ce qui montre qu'il y a toujours une base trumpiste qui est très très forte. Mais on voit aussi ces sondages qui montrent que les Américains désapprouvent totalement ce qui s'est passé au Capitole, puisqu'il n'y a plus que 18% de gens qui approuvent. Donc ces 18%, on retrouve la base de Donald Trump entre 20 et 22% qu'on a déjà depuis quelques temps comme étant très fanatisés. Pour le reste, je pense que ça va se retourner très vite. Le ballon est en train de se dégonfler.
Cela dit, même Donald Trump désapprouve ce qui s'est passé au Capitole. Et sur le Parti républicain, a-t-il encore de l'influence ?
Alors là, beaucoup moins. Ce qui est difficile pour les Républicains, c'est qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, hein, à savoir entre les électeurs et Donald Trump. Donald Trump qui souffle son message, les électeurs qui l'accueillent avec bienveillance et qui ensuite votent pour des sénateurs ou des représentants ou d'autres élus en fonction de ce message. Désapprouver Donald Trump publiquement, c'est souvent se condamner à ne plus avoir de boulot. Alors c'est très difficile d'avoir une parole publique aujourd'hui. On le voit avec, par exemple, le 25e amendement ou l'impeachment qui sont réclamés par tous les démocrates. Les républicains, ils vont très doucement, ils disent oui, c'est pas bien ce qui s'est passé. De là à aller à un impeachment, peut-être pas, une destitution encore moins. Là aussi, il faut que les choses se fassent rapidement. Mais on a vu un recul très fort après l'attaque contre le Capitole, notamment de leaders comme Ted Cruz, qui avait promis de contester et qui finalement a reculé. Il l'a fait pour la Pennsylvanie, mais il ne l'a pas fait pour les autres États.
On se retrouve dans un instant, Jean-Éric Brana, et puis on va parler alors cette fois de Joe Biden.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Joe Biden va prêter serment le 20 janvier. Il dispose de la majorité à la Chambre des représentants. Il a même la majorité au Sénat grâce à la victoire de deux démocrates en Géorgie. Ça fait 50 pour les démocrates, 50 pour les républicains. Mais en cas d'égalité, le vote de la vice-présidente Kamala Harris compte double. Donc, est-ce que ça veut dire, Jean-Éric Brana, que Joe Biden a les coudées franches ?
Non, pas totalement. D'abord parce que la République américaine n'est pas l'équivalent de la République française, à savoir que les décisions se prennent au Congrès. C'est le Congrès qui dispose de la possibilité de lancer des lois, qui les discute et ensuite qui les envoie au président. Et puis le vote se fait à 60 sénateurs et non pas 50. Donc c'est vrai que sur des lois très polémiques, comme par exemple la suppression des armes aux États-Unis, qui fait partie du programme de Joe Biden, ou le programme de santé qu'il voudrait réimposer aux États-Unis, il va y avoir beaucoup de tensions sur ces deux questions. Pour le reste, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en particulier pour la nomination des juges. Et on sait bien que c'est un élément important, puisque Donald Trump a réussi à placer 3 juges à la Cour suprême. Il va falloir donc aux démocrates contrebalancer ce pouvoir, par exemple, en rajoutant des juges dans les cours d'appel. Et les nominations, là, vont être très très importantes. Et c'est Joe Biden qui va le faire. Là, oui, il aura les coudées franches.
À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, d'après vous? Est-ce que l'Amérique va rejoindre les accords de Paris sur le climat? Est-ce qu'il va y avoir un revirement sur le nucléaire iranien? Obama avait signé l'accord à l'époque, hein.
Alors sur l'environnement, c'est quasiment déjà fait. Quand je dis déjà fait, en réalité, celui qui a été nommé Kerry a un statut tout à fait spécial. Il est envoyé spécial pour l'environnement, ce qui veut dire qu'il ne répond pas au Congrès, donc il n'y aura pas, on ne va pas attendre sa confirmation pour lancer les opérations. Dès le 20 janvier à midi, la lettre va être envoyée pour réintégrer les accords de Paris. Le 20 février à midi, les États-Unis seront revenus dans l'accord. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Pour l'Iran, c'est plus compliqué parce qu'il y a deux parties. Enfin, il y en a plus que deux même, mais il y a au moins les Iraniens qui sont à convaincre. Et eux ont fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de renégocier un accord qui a déjà été âprement négocié et qu'ils voulaient qu'il se poursuive. Et là-dessus, ça achoppe pour à peu près les mêmes raisons qu'avec Trump, notamment la date de fin de cet accord 2025 qui est un petit peu trop proche du goût de Joe Biden qui voudrait renégocier cela aussi. Donc ça va être très compliqué. Seulement, il a nommé des gens qui sont hyper compétents sur ces questions, qui avaient suivi ces dossiers sous Barack Obama. Donc c'est vrai que les contacts sont déjà pris et tout cela va reprendre un chemin qui ressemble beaucoup à une continuité par rapport à Barack Obama.
Est-ce qu'il va interdire les forages dans les réserves naturelles, dans le Grand Canyon ou en Alaska par exemple? Ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup choqué dans le comportement de Donald Trump.
Et à raison, c'était particulièrement choquant puisque ces terres étaient sanctuarisées aux États-Unis depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il y a des parcs nationaux. Bien sûr qu'il va le faire. Alors Donald Trump a été prudent. Par exemple, il n'a pas accordé les forages au large de la Floride parce que là, les Hispaniques ne l'appréciaient pas et il savait très bien qu'il aurait besoin de ses votes au moment de la présidentielle. Mais il l'a fait au large de la Californie où ça va s'arrêter très vite. Les parcs nationaux à l'intérieur du territoire et en Alaska. Et c'est vrai que Joe Biden va mettre le paquet, comme on dit, sur l'environnement. C'est quelque chose qui est demandé par sa base. C'est quelque chose qui est demandé par les plus jeunes aussi, qui aujourd'hui considèrent que l'environnement est une priorité absolue. La question du réchauffement climatique est importante. Il va revenir sur beaucoup de plans qui avaient été lancés par Barack Obama, notamment le plan sur l'énergie propre ou l'air propre, le Clean Air Act, et qui avait été détruit aussi par Donald Trump. Donc tout cela, évidemment, va être une reconstruction ou un retour par rapport à ce qu'a fait Donald Trump. Donald Trump a été le déconstructeur de l'ère Obama et Joe Biden va être le reconstructeur pour une continuité, encore une fois.
Et concernant le Covid, on sait que c'est une des raisons, peut-être la principale raison de la victoire de Joe Biden à cette élection présidentielle, c'est le Covid. Alors qu'est-ce que ça va changer son arrivée au pouvoir?
Alors ça, c'est la grande discussion. Est-ce que la Covid a changé quelque chose? Et est-ce que sans la Covid, Donald Trump aurait pu être élu? Moi, j'ai un avis différent de celui que vous venez d'exposer. Je crois que ça n'aurait rien changé puisque pour moi, la division entre les Américains est le vrai facteur qui a fait perdre Donald Trump et qu'il a vraiment négligé pendant son mandat. Mais la Covid est aujourd'hui la question numéro un. Là, vous avez raison, sur le plan politique et social aux États-Unis, tout simplement parce que l'économie est arrêtée, parce que les enfants ne vont plus dans les écoles, les étudiants ne vont plus dans les universités, qu'il y a des gens qui meurent tous les jours et c'est la première des raisons. Joe Biden a expliqué que d'abord on allait dépolitiser la Covid, ce qui est quand même le premier point à faire. Par exemple, le port du masque sera rendu obligatoire à partir du 20 janvier normalement pour 100 jours pour essayer de freiner cette pandémie qui est féroce aux États-Unis. 222 000 cas, là, les dernières 24 heures. C'est vraiment quelque chose de colossal. Sale, il faut absolument l'arrêter puisque sans cela l'économie ne repartira pas et Joe Biden demande l'aide de tout le monde. La plupart des gouverneurs républicains ont déjà répondu à son appel et mettent déjà en place des mesures qui vont dans ce sens-là.
Dernière question, Jean-Éric Brana, puisque vous évoquez la division entre les Américains, c'est vrai qu'il semble irréconciliable, hein, tous les sondages le disent. Alors Joe Biden est-il taillé pour les rassembler alors que tout concourt à les diviser encore davantage, hein, leurs chaînes de télé comme leurs réseaux sociaux?
Alors, vous avez eu la gentillesse de citer mon livre dans lequel j'expliquais que Joe Biden était peut-être la seule personne aux États-Unis aujourd'hui capable d'arriver à réconcilier les Américains. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est le plus républicain compatible, capable de tendre la main à l'autre camp, mais surtout parce qu'il a une bienveillance et une capacité d'empathie hors du commun. Mais il y a depuis 3 jours un événement supplémentaire, c'est cette attaque du Capitole, où on a vu un Joe Biden prendre la parole avant même le président des États-Unis et endosser véritablement le costume du président. Pour la plupart des Américains, alors que cette image était en mondiovision, Biden qui parlait et qui expliquait ce qui se passait, pour la plupart des Américains, ça a été un vrai choc. Ils ont découvert un homme calme, posé, sérieux, qui pouvait s'imposer comme chef en temps de crise, ce qu'ils n'ont plus vu depuis 4 ans, puisque Donald Trump n'a jamais fait ce type d'intervention à la télévision en temps de crise. Donc c'était très rassurant pour les Américains, et on voit déjà dans les premiers sondages, 80% des Américains, 82 exactement, condamnent ce qui s'est passé au Capitole et demandent à ce qu'il y ait une réconciliation dans le pays. Alors partant de ce beau score, Biden a quand même cyniquement une rampe de lancement extraordinaire pour commencer sa présidence.
Merci Jean-Éric. La biographie de Joe Biden que vous venez de publier, c'est aux éditions du Nouveau Monde. On se retrouve dans un instant avec l'astrophysicienne Sylvia Ekström. On va parler de voyager sur Mars.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Sylvia Ekström.
Bonjour.
Vous êtes docteur en astrophysique, spécialisé en physique stellaire. Vous travaillez au département astronomie de l'Université de Genève et vous publiez chez Favre avec Javier de Nombella un livre absolument passionnant, préfacé par le prix Nobel de physique Michel Mayor et qui va à l'encontre de tout ce que l'on croit aujourd'hui puisqu'il s'intitule « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs ». Vous vous rendez compte de la déception que vous nous causez ? Elon Musk, qui est quand même devenu depuis quelques jours l'homme le plus riche du monde, nous fait miroiter un avenir radieux sur la planète rouge grâce à son vaisseau Starship, censé emmener 100 ou 200 passagers d'un coup en 80 jours seulement, dans le but de coloniser Mars. Et vous, vous nous dites qu'il n'en sera rien.
Oui, effectivement, on fait une petite douche froide comme ça, mais il nous semblait important de alors, enfin, on peut toujours rêver, hein, ça c'est sûr, mais il nous semblait important de mettre un petit peu à plat toutes les difficultés qu'il y a par rapport à envoyer des humains sur Mars. On sait envoyer des petits robots, ça se passe bien. On sait faire atterrir un petit robot d'à peu près 1 tonne. Maintenant, il va falloir, si on veut envoyer des hommes, il va falloir faire atterrir une fusée beaucoup plus lourde. Et ça, on ne sait pas faire encore. Il faudra faire nos tests. Alors, sans doute pas avec des véhicules habités. J'imagine qu'on va tester ça avec des véhicules lourds de cargo. Mais typiquement, on ne sait pas faire. Donc, il y a plein de choses, en fait, quand on creuse un petit peu, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. La NASA, d'ailleurs, elle est très consciente de ça, puisqu'elle conditionne le retour sur Mars au retour sur la Lune, déjà, pour tester toutes sortes de technologies, toutes sortes de conditions de vie sur la Lune, avant d'envoyer des gens beaucoup plus loin, où tout problème serait beaucoup plus dramatique. Mais effectivement, il y a des chantres de la colonisation qui ont l'air de faire passer les choses pour être très faciles, n'est-ce pas ? Il suffit d'eux, il y aura des robots qui... et ce genre de discours, voilà, on avait juste envie de rétablir un petit peu les choses.
Vous insistez, par exemple, sur la distance entre la Terre et Mars. Hein. En 2003, on avait calculé que Mars était à 55 millions de kilomètres de la Terre. C'était la première fois depuis 60 000 ans que c'était aussi proche. Mais en moyenne, Mars est beaucoup plus loin, à 225 millions de kilomètres. Et au plus loin, l'astromobile Persévérance, qui est parti, que la NASA a envoyé le 30 juillet, qui arrivera dans un mois et demi, il aura parcouru 497 millions de kilomètres. C'est très très loin, Mars, hein, quand on pense que la Lune est à moins de 400 000 kilomètres. En faire 497 millions, c'est une autre paire de manches.
Oui, c'est un peu comme on peut essayer de traverser la Manche à la nage. Des gens le font, ça se fait. En revanche, essayer de traverser l'Atlantique à la nage, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et en fait, la différence entre aller sur la Lune et aller sur Mars, c'est à peu près de cet ordre de grandeur-là. La Lune, en plus, elle a l'avantage de tourner autour de la Terre. C'est la Terre qui est le repère fixe dans ce système. Et donc, elle est toujours plus ou moins à la même distance. En revanche, Mars et la Terre tournent toutes les deux autour du Soleil, et donc elles sont parfois à l'opposé. l'une de l'autre du Soleil. Et donc la distance entre ces deux astres va changer énormément selon la configuration.
Et effectivement, vous dites... Oui, pardon.
Oui, bah pour essayer d'aller sur Mars, on essaie de minimiser le trajet. Et pour ça, on doit partir à un moment précis. On a des fenêtres de tir. D'ailleurs, justement, vous parliez des trois sondes qui sont parties cet été en introduction. Les trois sondes, elles sont parties dans une fenêtre de tir très, très proche, en fait.
Une parce chinoise, qu'on a pas... une émiratie, les Émirats Arabes Unis, et puis une de la NASA.
Persévérance.
Voilà. Ouais. Vous expliquez aussi qu'il ne s'agit pas d'un voyage en ligne droite entre la Terre et Mars, mais d'un voyage en courbe.
Effectivement. Le Soleil est une masse très, très importante au centre du système solaire, et dès qu'on voyage dans le système solaire, les trajectoires sont courbées par le Soleil, donc on doit prendre ça en compte.
Et il faut faire des corrections de trajectoire pour ne pas rater la planète, et ça consomme beaucoup d'énergie, donc il faut emporter avec soi beaucoup d'énergie.
Ce qui alourdit le vaisseau, ce qui rend plus compliqué le décollage. Alors Elon Musk, dont vous parliez plus en avant, a un plan comme ça de ravitailler son vaisseau une fois qu'il est décollé, le mettre en orbite autour de la Terre, le ravitailler en orbite et le faire partir sur Mars en ayant re-rempli en fait les réservoirs. Et ça permettrait de faire plus de corrections de trajectoire, donc effectivement peut-être de raccourcir le voyage. Ce serait son plan pour faire ça en peu de temps, mais il faut quand même signaler que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, on ne sait pas encore faire, c'est de nouveau sur papier, il n'y a qu'un faucon, il suffit d'eux, mais c'est des technologies qu'il faut tester et on ne sait pas du tout comment faire pour le moment.
Vous, dans votre livre, vous dites qu'il est plus raisonnable de compter sur un voyage qui durerait comme celui de Persévérance, 6 à 7 mois, hein, plus le séjour sur Mars, plus le retour. Parce qu'à la différence du robot Persévérance, les humains qu'on enverra sur Mars, ils voudront rentrer. Donc, il faudra attendre une fenêtre de retour. Et vous dites qu'il faut compter sur un voyage de 3 ans.
Oui, c'est à peu près ce qu'il faut pour être dans la bonne fenêtre pour partir de la Terre vers Mars. Rester le temps qu'il faut sur Mars pour être de nouveau dans la bonne fenêtre de tir pour pouvoir rentrer de Mars vers la Terre. En fait, le voyage, c'est la période où les corps humains sont le plus soumis à des phénomènes qui sont néfastes pour eux, la radiation, la microgravité. Enfin, je pense en reparler, mais donc on essaie toujours de minimiser. C'est vraiment, il faut minimiser le voyage, et c'est pour ça que Elon Musk parle de 80 jours. Ça fait un peu Jules Verne. Je ne sais pas à quel point c'est réaliste. J'ai un peu des doutes personnellement, mais voilà. Effectivement, si on peut remplir les réservoirs et puis vraiment faire d'énormes corrections de trajectoire, peut-être que c'est réalisable. Je ne sais pas.
Alors c'est vrai que voyager sur Mars, ça fait quand même rêver. Ça fait longtemps que ça nous fait rêver. Alors rêvons un peu. C'est le sujet de votre livre, Sylvia Ekström. Un voyage de 6 à 7 mois pour y aller, puis ensuite il faudra revenir. Vous dites qu'il faut compter sur à peu près 4 personnes. Pensez à la nourriture, 1 kilo de nourriture par personne et par jour, 11 litres d'eau, ça fait des tonnes dans le vaisseau. Mais ces 4 personnes, le premier problème qui va se poser, c'est quel sera leur sexe. Ça n'est pas neutre d'envoyer des hommes et des femmes pendant 3 ans dans une promiscuité totale.
Oui, c'est pas anodin. On sait pas. Il n'y a pas encore vraiment de réponse à ça. Les tests qui ont été faits d'isolement, par exemple Mars 500, c'était que des jeunes hommes. Enfin, jeunes et moins jeunes, mais disons des hommes. On ne sait pas trop quelle est la configuration idéale. C'est en débat. Il faudra y répondre avant d'envoyer les gens.
Ouais. Alors, l'hygiène, forcément, posera des problèmes. S'il y a des candidats, il faut qu'ils y pensent. Pendant 3 ans. On se lave avec des lingettes.
Oui, il faut vraiment économiser l'eau au maximum. Déjà, l'eau, elle est recyclée pratiquement entièrement, c'est-à-dire que dans l'ISS, typiquement, c'est ce qu'ils font. Ils récupèrent même la perspiration des corps. Donc, quand on respire, on exhale beaucoup d'humidité. Hein. Et donc, cette humidité-là, elle est récupérée. Ils récupèrent l'urine, ils récupèrent toutes les eaux de lavage ou quoi que ce soit. Et tout est recyclé. Donc on boit l'urine de ses compagnons. Les astronautes y sont habitués, ils savent que c'est en fait le système reproduit le recyclage de l'eau sur Terre où il y a on commence par évaporer l'eau, donc tous les déchets, tous les débris sont éliminés, et puis on la précipite pour la faire redevenir liquide et on l'accumule. Donc c'est exactement ce que fait la Terre hein, dans un immense système. Et dans l'ISS, typiquement, c'est ce qu'ils font en tout petit, mais qui permet de recycler l'eau à 95%. C'est vraiment énorme. Hein, et on arrive à limiter comme ça la consommation d'eau au strict minimum. Il faut bien se rendre compte que quand on compte 11 litres d'eau par jour, ça, c'est pour des astronautes hyper entraînés qui justement, se lavent aux lingettes, qui économise l'eau par tous les moyens. L'Américain moyen, lui, il dépense très largement 300 litres d'eau par jour. Alors, pas du tout les mêmes ordres de grandeur.
On va voir que boire le pipi de ses copains, ça n'est pas le pire qui nous arrivera si l'on doit un jour partir sur Mars. On se retrouve dans un instant, Sylvie Extrême.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le docteur Sylvie Extrême. Donc imaginons les premiers martionautes qui partent pour 7 mois de voyage pour Mars. Un des problèmes, parce qu'on va voir qu'il y en a beaucoup, c'est le bruit.
Oui, absolument. On a l'impression toujours qu'évidemment, dans l'espace, il n'y a pas de bruit. C'est le silence de ces espaces infinis qui nous effraie. Mais quand on est dans un véhicule qui va aller justement traverser ces espaces infinis, il faut toute une machinerie pour maintenir la vie dans la capsule. On ne se rend pas compte, mais dans une pièce, l'air est en mouvement constant. Il est brassé constamment et donc on se retrouve pas dans une espèce de bulle de CO2 qui nous asphyxierait. Alors qu'en apesanteur, l'air ne bouge pas. Et donc, on doit le ventiler en permanence. Donc, il y a des systèmes pour faire circuler l'air. Il y a toute une machinerie pour le purifier, pour éliminer le CO2, remettre de l'oxygène. Il y a toute la machinerie de recyclage de l'eau, effectivement, qui est à deux pas, hein, on va dire. Les espaces sont très petits. Et donc, il y a un bruit constant, une vibration constante. Il y a le capitaine Hadfield a d'ailleurs enregistré le bruit qu'il y a dans l'ISS et l'a posté, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais c'est assez intéressant d'entendre le bruit de l'ISS. Et on dit que ce bruit correspond à peu près à 70 décibels. Donc c'est une rue passante, c'est vraiment le trafic automobile passant. Et c'est en permanence. Donc c'est quelque chose qui attaque la santé humaine. On sait hein, que le bruit, c'est une source de stress. Même si le cerveau finit par ne plus l'entendre, le corps, lui, le subit. Et donc c'est quelque chose avec lequel il faut compter. C'est quelque chose qui dégrade la santé humaine. En
fait. Alors justement, la santé humaine, elle aussi, c'est un problème quand on part pour 3 ans, qu'il n'y aura pas de médecin hein, quand on arrivera. Tout peut devenir un problème. Les dents, l'appendicite, la cataracte, il peut tout nous arriver.
Exactement, et les radiations qu'on subit dans l'espace aggravent les risques de cataracte. Donc, on peut imaginer peut-être que les astronautes seraient préopérés, en fait, opérés préventivement pour être des espèces de biomans.
On leur enlèverait l'appendice aussi.
Alors ça, je suis à peu près sûr qu'on ne va pas les laisser partir avec leur appendice. Ce serait beaucoup trop risqué.
Il faudrait leur arracher leurs dents de sagesse.
Exactement, j'imagine. Je pense qu'il y a quelques précautions comme ça à prendre.
Mais les radiations, c'est important parce que les hublots, par exemple, seront tout petits sur le vaisseau. Il ne faut pas s'attendre à des grandes verrières qui permettent d'admirer les étoiles. Non, pour se protéger des radiations, il va falloir des tout petits hublots et pourquoi pas même blinder le vaisseau.
Oui, absolument. Alors, blinder le vaisseau, il faut s'entendre. C'est vrai que on dit souvent hein, que l'atmosphère terrestre, elle fait l'équivalent d'un mur de 30 mètres de béton ou bien d'une épaisseur de 80 cm de plomb. C'est ça qui nous protège des rayonnements du soleil qui sont néfastes. Hein. On bénéficie de sa lumière visible, on bénéficie de sa chaleur, mais on est bien content que les rayons X et les rayons gamma soient bloqués par l'atmosphère. Quand on est sur l'ISS, on est déjà beaucoup plus haut dans l'atmosphère, donc on a un niveau de radiation qui est plus élevé, mais on est encore protégé par la magnétosphère terrestre qui dévie au moins le vent solaire qui sont des particules chargées qui s'échappent du soleil et qui viennent frapper la Terre, la haute atmosphère de la Terre. C'est ce qui donne les magnifiques aurores boréales. Donc c'est un très beau spectacle quand elles atteignent quand même la haute atmosphère. Mais on est bien content que ça nous arrive pas directement sur le sol. Et dans l'espace, on n'a plus du tout cette protection. L'ISS est encore dans la magnétosphère, mais si on part sur Mars, on n'y sera plus. Et donc, on va subir, les martionautes subiraient une radiation non seulement électromagnétique, donc du Soleil, des rayons X, gamma, mais aussi ces rayons cosmiques qui sont soit le vent solaire, soit carrément des rayons cosmiques envoyés par la galaxie, par des galaxies externes. Ce sont des noyaux chargés, très 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 énergétiques, et qui peuvent faire des dégâts monumentaux.
Continuons sur les dégâts, et en particulier sur les dégâts psychologiques. On part pour 3 ans, 7 mois de voyage, à 4 personnes sur une toute petite surface. Plus on s'éloigne, moins on voit la Terre, et puis tout à coup, elle disparaît complètement. Ce n'est jamais arrivé à personne de voir disparaître la Terre. Les dégâts psychologiques, est-ce qu'on les imagine ?
Non, on a essayé de les recréer un petit peu en faisant ces expériences du genre Mars 500, justement, où on a enfermé 4 ou 6 personnes pendant 500 jours, en faisant en sorte que les communications avec la base, entre guillemets, avaient un retard de plus en plus grand pour mimer le retard dû à l'éloignement. Mais, alors bien sûr, on pouvait voir un petit peu l'effet de la promiscuité sur un équipage. Ils avaient des tâches à accomplir et puis, voilà, ils vivaient ensemble les uns sur les autres pendant 500 jours. Mais évidemment, il y avait un bouton rouge. Je veux dire, s'ils en arrivaient à vouloir s'étriper, à tout moment, ils pouvaient ouvrir la porte, s'en aller. Donc la pression psychologique réelle d'un vrai voyage sur Mars, où effectivement là on n'est vraiment plus que les 4 ou 6 à partir, et le rôle de chacun est primordial. Donc si on voit que l'un d'eux flanche psychologiquement, il est en train de mettre toute la mission en danger. Donc la pression psychologique qu'ils vont subir à cause de ça, l'éloignement de la Terre, effectivement, le fait qu'elle disparaisse, les astronautes sur l'ISS, ils passent leur temps à admirer la Terre depuis leur petit hublot. Et c'est un spectacle qui doit être quelque part être rassurant. Elle est juste là, si jamais en 3 heures on peut être de retour.
Oui, c'est important de savoir. Quand vous êtes sur l'ISS, si vous avez un problème de dents de sagesse, vous pouvez rentrer en 3 heures. C'est tout près. Oui. Hein. Si la Terre est une orange, il faut se dire que l'ISS est à 2 millimètres de l'écorce de l'orange, tandis que la Lune est à 2 mètres, hein, on va dire, et puis Mars serait à 2 kilomètres.
Exactement. C'est un vraiment des ordres de grandeur de différence. Et il y a cette espèce d'implacabilité du départ qui n'a jamais été testé. C'est vrai qu'on peut imaginer que les navigateurs qui partaient dans des expéditions d'exploration avec Magellan, Vasco de Gama, Christophe Colomb, ils devaient peut-être avoir un peu ce sentiment-là. Ils quittaient la Terre connue et ils partaient dans un espace inconnu pour on ne sait pas combien de temps. C'est peut-être ce genre de psychologie qu'on va connaître. Surtout, on sait que les astronautes, ils subissent une immense pression, même simplement dans l'ISS. Ils ont toujours un peu peur, quand ils font des réparations, par exemple, extravéhiculaires, ils ont toujours un peu peur que ce soit eux qui fassent la bêtise, qui lâchent le tournevis et puis qui mettent un peu en danger tout le monde. Déjà, simplement là, ils ont une pression psychologique de pas faire faux, de pas faire d'erreur. Et on peut imaginer que dans une expédition vers Mars, tout va être tellement délicat, en fait, tellement fragile. On n'est tellement pas fait pour être dans l'espace que le moindre système est indispensable. Et si quelque chose casse, si quelque chose se passe mal, c'est vraiment toute la mission qui peut dramatiquement s'arrêter.
Et puis, il n'y a pas seulement le voyage. Après, il faut arriver sur Mars et y rester. Mais vous allez nous raconter ça dans un instant, Sylvie Ekström.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Toutes les sondes que l'on a envoyées sur Mars jusqu'à présent pesaient moins d'une tonne. La dernière Persévérance, l'Astromobile, pèse juste un tout petit peu plus d'une tonne. Là, évidemment, pour transporter 4 passagers pendant 6 ou 7 mois, avec tout ce qu'on a dit, hein, la nourriture, l'eau, les pièces de rechange qui sont indispensables, évidemment, il faudrait des pièces de rechange pour tout. Le vaisseau pèserait beaucoup, beaucoup plus lourd. Est-ce qu'on sait le faire Alors j'allais dire atterrir, mais non, c'est amarcir. Est-ce qu'on sait faire amarcir un vaisseau de plusieurs tonnes ?
Alors non, on ne sait pas encore. On a des idées sur comment faire et il faudra les tester. En fait, le problème de Mars, c'est que à la fois, bon, alors, sa gravité est plus faible que la Terre, mais elle est plus grande que celle de la Lune. En revanche, l'atmosphère de Mars est très ténue, c'est 0,6% l'atmosphère terrestre, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et donc toutes les techniques de parachute vont être extrêmement limitées, ou alors il faut un parachute gigantesque, et même comme ça, ça ne va pas freiner une chute. D'ailleurs, si on voit l'atterrissage des astronautes qui descendent de l'ISS, on voit que malgré le parachute, la capsule descend très vite. Et donc sur Mars, ce serait encore plus vite. Et donc ça ne suffit pas, il faut des rétrofusées pour ralentir la descente. Et de fait, pour le moment, on ne sait pas trop comment faire ça avec quelque chose d'aussi lourd.
Admettons qu'on y arrive. On a passé 7 mois en apesanteur. Je suis un martionaute. J'imagine que même tenir un téléphone est difficile au bout de 6 ou 7 mois d'apesanteur. On se souvient de Thomas Pesquet quand il est revenu de son séjour sur l'ISS. On a un problème, on n'a plus d'eau, on n'a plus de force et le cœur en a pris un coup.
Absolument, le cœur s'est affaibli, les muscles se sont affaiblis, les os se sont décalcifiés. On a des gros problèmes d'ostéoporose avec l'apesanteur. Et donc, et aussi, l'oreille interne, qui est quelque chose qui nous permet de tenir debout, eh bien, elle est partie complètement au pif pendant ces mois où il n'y avait plus de haut ni de bas. Elle ne sait plus où elle en est et elle va mettre un petit moment à récupérer. Et on voit d'ailleurs, justement, quand on voit les astronautes descendre, certains sont carrément malades à cause de leur oreille interne qui subit le retour en gravité. Beaucoup disent hein, « gravity is not my friend », la gravité n'est pas mon ami. C'est difficile de se réhabituer.
L'avantage des astronautes, c'est quand ils sont confrontés à ce problème, c'est au moment où ils rentrent. Ils sont bien accueillis, il y a beaucoup de monde, il y a leur famille, tout va bien. Ce qui arrivera aux martionautes, c'est que ça va leur arriver, donc au bout de 7 mois, quand ils vont arriver sur Mars, où il n'y aura personne pour les accueillir, bien entendu. Alors il y aura un vaisseau cargo qui aura été déposé quelques semaines ou quelques mois auparavant du matériel pour construire une base, parce qu'il va bien falloir construire quelque chose en arrivant sur Mars. Mais au moment même où on a le plus besoin d'eux, où ils sont seuls ou à des millions et des millions de kilomètres, ils n'ont plus aucune force.
Exactement. Et on voit que les astronautes sur Terre n'arrivent pas à s'extraire de leur capsule tout seuls. Il faut des gens pour les extraire. Sur Mars, ma foi, ils devront se débrouiller tout seuls. Et vous disiez, oui, il y a des vaisseaux cargo auront déposé du matériel. Il faudra construire ces abris. Alors, certains disent oui, mais il suffit d'envoyer des robots qui le feront avant que les astronautes arrivent. Alors oui, bien sûr, il suffit de des robots qui construisent des habitations, ils n'existent pas encore. Peut-être qu'ils existeront d'ici là, mais pour le moment, ça n'existe pas. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire. Et donc, ce seraient les astronautes qui devraient construire ça, mais effectivement, en étant dans un état très, 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 très faible et très fatigué.
Elles devraient être comment, les combinaisons des martionautes parce qu'il y a de la poussière, la fameuse poussière martienne. Est-ce qu'on a une idée des textures? Parce qu'il faudra les laver aussi, ces combinaisons, et ce n'est pas facile de faire son linge, comme on dit sur Mars.
Alors les combinaisons, je pense pas qu'on va beaucoup les laver, on va peut-être les brosser un petit peu de temps en temps, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui se lave. On va économiser l'eau au maximum, donc tout ce qui est buanderie, ça va être un peu mis de côté pendant cette expédition. L'olfaction va être mise à rude épreuve. Les combinaisons, elles doivent pallier à plusieurs problèmes. D'abord, elles doivent isoler les corps des changements de température extrêmes sur Mars. On passe de moins 120 degrés pendant la nuit à 0 à 20 degrés pendant le jour. C'est des très grands écarts. Et aussi, comme je vous ai dit, l'atmosphère est très faible, donc il y a très peu de pression au sol. Et donc, il faut pressuriser les combinaisons pour que les corps des astronautes ne se dilatent pas hein, et que leur sang ne bouille pas.
Alors, ça fera 6 ou 7 mois de voyage qu'on aura mangé de la nourriture lyophilisée. On aura peut-être envie d'autre chose. Nous sommes nombreux à avoir vu le formidable film de Ridley Scott, Seul sur Mars, où on voit Matt Damon, oublié par ses compagnons de voyage, qui se met à cultiver le sol martien. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on pourra cultiver ? Ça paraît indispensable, parce qu'on ne peut pas manger de la nourriture lyophilisée pendant 3 ans. Donc on se dit, il faudra forcément cultiver. Est-ce que c'est possible ?
Alors, il y a des tests qui sont faits pour cultiver de la batavia ou des graines de moutarde en apesanteur dans des conditions de recyclage total. C'est faisable pour certaines espèces végétales, justement des salades. Le gros de l'alimentation des astronautes, ce sera du lyophilisé. On continue parce que c'est pas possible de faire autrement. La salade, ce sera un complément. Beaucoup d'espèces végétales ne peuvent pas être cultivées hors sol. La plupart, elles ont besoin d'un sol, d'un substrat important et de quantité d'eau importante aussi. Il ne faut pas oublier que l'eau est un problème. Hein. Pas seulement pour les astronautes, mais pour toutes les cultures qu'on fait. Il faut prévoir un recyclage maximal. Et même malgré ça, il y a une consommation d'eau. Et donc, tout ça, ça alourdit un vaisseau. Tout ça, c'est des bagages en plus à prendre. On doit emmener son eau, on doit emmener son oxygène. C'est tout ça qui prend beaucoup de place et qui pèse.
Et d'où le titre de votre livre, « Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs ». Le livre vient de paraître chez Favre. Vous en êtes persuadé, tout ce qu'on s'est raconté sur la planète B, celle qui pouvait nous sauver au cas où la Terre ne pourrait plus nous supporter, vous pensez que ce sont des fariboles ? On restera sur la Terre, on n'a pas d'autre choix ?
Oui, absolument. Il n'y a pas de planète B. On peut aller explorer Mars éventuellement. Peut-être, on y arrivera. En revanche, le moindre endroit, le pire sur Terre, est plus accueillant que le plus bel endroit sur Mars. Et donc, on est lié à la Terre. Il n'y a pas moyen d'aller vivre ailleurs. Même en ayant fait plein de bêtises et en rendant la biosphère très peu vivable, ce sera encore plus vivable que Mars. C'est ça qu'il faut se rendre compte.
Merci Sylvia Ekström. Je rappelle que votre livre est co-signé avec Javier Nombela, qu'il est préfacé par le prix Nobel de physique Michel Mayor, qui s'intitule « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs » et qu'il est paru chez Favre.
Europe 1.
L'émission est terminée, on se retrouve samedi prochain. Vous avez maintenant le grand rendez-vous, Europe 1 CNews, Les Échos. Mickaël Darmon, bonjour.
Bonjour.
Votre invité,
Olivier Véran, ministre de la Santé, le ministre en première ligne dans la tempête contre la pandémie, alors que de nouvelles mesures sont à l'étude pour cette semaine.
Merci Mickaël, bonne émission.